Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, présenté par Lievin Bunga.
Bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix appelle les Congolais à œuvrer activement à la recherche de la paix et à ne pas se limiter aux déclarations. Jean-Pierre Lacroix s'est exprimé hier dimanche lors de son passage à Beni, au Nord Kivu. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis fini les inquiétudes pour les élèves de l'année scolaire 2024-2025. Ils auront bel et bien leur bulletin cartonné. L'annonce est de l'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale qui a réceptionné ces précieux sésames du fournisseur. Notre invité, le directeur de recherche au Bureau d'études pour la paix et l'environnement, Bukasa Kabwe, va nous parler de la publication des résultats de l'examen d'État pour les provinces du Nord et du Sud Kivu, actuellement occupées par l'AFC M23. Restez donc branchés à l'écoute de Radio Okapi. Encore une fois, bonjour, mais sachez d'abord que le Burundais Ezekiel Nibigira, désormais président de la commission de la CEAC, c'était lors du 7e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, travaux tenus hier dimanche 7 septembre à Sipopo, en Guinée équatoriale. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a regagné Kinshasa en début de soirée de ce même dimanche, a aussi participé à ces travaux. Sachez encore que hormis la désignation du président burundais Ezekiel Nibigira comme président de la commission de la CEAC, le sommet a aussi examiné la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la CEAC ont en effet reçu une information sur la situation dramatique dans l'est de la RDC où des territoires restent sous l'emprise d'un groupe armé soutenu de l'extérieur. La conférence a à l'occasion appelé à la mise en œuvre immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, socle de la paix dans la région. La conférence en a enfin salué les efforts conjoints des processus de Lomé, Doha et Washington pour restaurer la stabilité, peut-on lire dans le communiqué final. Puisque nous parlons sécurité dans l'est de la RDC, restons-y. Notez que le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix s'est exprimé sous cette question. Le pays sera stable quand les Congolais seront unis pour parler le même langage dans la recherche de la paix, a déclaré Jean-Pierre Lacroix hier dimanche lors de son passage à Beni au Nord Kivu. Pour le patron des opérations de paix aux Nations Unies, les Congolais ne doivent pas seulement se limiter aux déclarations, mais œuvrer activement à la recherche de la paix. Il affirme que les Nations Unies sont prêtes à déployer des éléments pour la vérification de l'exécution du cessez-le-feu et autres engagements pour la stabilisation. Jean-Pierre Lacroix explique.
Sur le plan politique, encore une fois, il y a une responsabilité de notre côté à alerter sur le fait qu'il ne faut pas s'arrêter aux déclarations et aux résolutions. Il faut que l'effort diplomatique qui doit passer par toutes les mesures doit être fait pour qu'il y ait ensuite des résultats concrets sur le terrain, diminution de la violence, avec, je crois, une importance toute particulière à accorder à la nécessité d'un cessez-le-feu parce qu'il est difficile d'avancer ensuite vers la paix s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Nous sommes très prêts à déployer rapidement des éléments pour superviser la vérification du cessez-le-feu. Nous avons déjà une bonne expérience, une capacité et aussi une bonne expérience de coopération en matière de désarmement des groupes armés. Nous avons d'ailleurs plusieurs actions et plusieurs résultats enregistrés dans ce domaine. Et bien entendu, ce serait aussi une capacité qui serait mise en œuvre pour faire avancer le respect des engagements pris à Washington et Doha. La solution doit être principalement congolaise, bien entendu. Et j'ajoute que plus les Congolais seront unis, et meilleure sera leur position pour progresser dans les efforts de paix. Parce que les division ouvre un espace à ceux qui perpétuent l'instabilité et la déstabilisation.
Sachez que le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix a aussi insisté sur le respect des mécanismes du processus de cessez-le-feu pour la stabilisation de la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour Jean-Pierre Lacroix, tous les acteurs impliqués dans le processus de paix doivent conjuguer des efforts et montrer la volonté de respecter le cessez-le-feu pour arriver au résultat attendu qui est le retour de la paix et la stabilité. On écoute encore une fois Jean-Pierre Lacroix.
Vous avez dans la résolution 2773, il y a la nécessité d'un cessez-le-feu, il y a aussi des engagements ou de rappels d'engagements qui avaient été pris, notamment dans le cadre du processus de Luanda, de Nairobi, je ne vais pas en faire toute la liste. Il faut poursuivre et tous ceux qui se sont impliqués dans les efforts diplomatiques doivent continuer à le faire. Nous sommes impliqués, Conseil de sécurité, les États-Unis, le processus de Washington, le processus à Doha, le Qatar, donc tous ces acteurs ont une influence et doivent continuer à exercer leur influence de manière ferme, résolu pour arriver à des résultats concrets sur le terrain. Mais je dis, parallèlement à ça, ça ne veut pas dire qu'on reste les bras croisés en attendant que ça se fasse. Encore une fois, je veux rappeler de manière très claire et explicite qu'il y a beaucoup d'activités qui sont conduites aujourd'hui dans tous les domaines, civils, police, militaire, pour bénéficier à la population, assurer la sécurité. Dans les régions, il y a des opérations conjointes contre divers groupes armés. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas juste d'attendre activement le progrès des processus de paix, mais aussi de travailler au jour le jour comme nous le faisons.
Ce dossier porte la signature de Marc Marofimbo. Et puis, je vous signale aussi que concernant le mandat de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix a affirmé qu'un message clair lui a été transmis par les autorités congolaises qui souhaitent que la mission onusienne au Congo reste continue à travailler en RDC et que cette coopération se poursuive et puisse même s'intensifier. On écoute Jean-Pierre Lacroix dans cet extrait choisi par Jude Mister Bilanda.
Il y a des dizaines de milliers, plutôt des centaines de milliers de personnes qui dépendent de nos collègues de la MONUSCO pour leur protection quotidienne, avec le concours de nos collègues humanitaires. D'abord, cette visite intervient alors que dans quelques jours s'ouvrira la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec la participation, comme chaque année, des autorités congolaises à un niveau très élevé. Et dans quelques mois, le Conseil de sécurité examinera la question de la reconduction du mandat de la MONUSCO. Donc, il est important de venir en République démocratique du Congo, d'abord pour entretenir avec les autorités congolaises et faire le point de nos relations et de ce qu'attendent les autorités congolaises de la MONUSCO. Et le message très clair qui m'a été convié par le président de la République, par la première ministre et les ministres, c'est que les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo, continue à travailler et que notre coopération se poursuit, de même s'intensifie.
Qu'est-ce qui se passe sur le terrain cette fois? En tout cas, le gouvernement provincial du Sud Kivu alerte l'opinion nationale et internationale sur le renforcement des troupes rwandaises dans le territoire d'Ijwi. Dans un communiqué de presse rendu public vendredi 5 septembre 2025, son porte-parole estime à 750 le nombre de soldats rwandais arrivés via la piste de Moussoko à Ijwi. Rondin Timbonera pour les détails.
Tout a commencé dans la nuit du 3 septembre 2025 lorsque deux bateaux et des hors-bord remplis de soldats ont accosté dans la zone selon des sources locales. Munis de munitions et d'armes à feu, ces troupes ont procédé à l'arrestation des pêcheurs et des personnes témoins de leur débarquement. Toujours selon les mêmes sources, ces militaires ont pris la direction de Mugote pour rejoindre un autre contingent déjà déployé dans la région. Par la même occasion, le porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Didier Kabi, dénonce, au-delà de ces renforcements des troupes, le début de la construction d'un camp de la police rwandaise à Bwando. Bwando est une localité située dans le groupement des Mugote à Ijwi. Il indique que ce camp en construction se trouve en face de Kibuye, une ville rwandaise appartenant au district de Karongi. Didier Kabi dénonce cette nouvelle violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Il soupçonne Kigali de vouloir annexer une partie de la RDC en se cachant derrière le M23. Face à ce qu'il qualifie d'acte d'agression, il en appelle à la communauté internationale pour constater cette nouvelle escalade. Pour lui, l'urgence s'impose pour mettre fin à cette politique d'occupation déguisée, déclare-t-il à travers un communiqué. Selon plusieurs sources, ce renforcement des troupes fait suite à deux autres mouvements similaires observés, notamment à Walungu au sud Kivu ainsi qu'à Masisi et Walikale au nord Kivu concernant les troupes de la rébellion.
Avant de boucler ce chapitre consacré à la sécurité, cap sur Genève en Suisse à présent, où s'ouvre dans quelques heures la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Durant près de 5 semaines, le Conseil va examiner plus de 60 rapports présentés par le secrétariat des Nations Unies et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, des experts des droits de l'homme et d'autres organes d'enquête concernant de nombreux thèmes intéressant la situation des droits de l'homme dans plus de 40 pays. Au total, le Conseil tiendra quelques 37 débats interactifs avec le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk. Mais c'est quoi le Conseil des droits de l'homme? Réponse avec vous, Alain Irung, l'envoyé spécial de Radio Okapi, sur place à Genève.
Le Conseil des droits de l'homme est un organe qui concerne plusieurs gouvernements du système des Nations Unies. Il a été créé en 2006 pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Il a succédé à la Commission des droits de l'homme qui avait été créée en 1946. Le Conseil est actuellement composé de 47 pays membres. Parmi les pays africains figurent la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bénin, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Maroc et le Soudan. Par ailleurs, les Nations Unies définissent les droits de l'homme comme les droits que nous avons tout simplement, car nous existons en tant qu'êtres humains. Ils ne sont attribués par aucun État. Ces droits universels sont reconnus à toute personne, indépendamment de sa nationalité, son sexe, ses origines nationales ou ethniques, sa couleur, sa religion, sa langue ou toute autre situation. Ils vont des plus fondamentaux comme le droit à la vie, à ceux qui rendent notre vie digne d'être vécue, comme les droits à l'alimentation, à l'éducation, au travail, à la santé et à la liberté.
Bonne nouvelle pour les élèves, ceux de l'année scolaire 2024-2025 auront bel et bien leur bulletin cartonné, annonce de l'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale, Hubert Kibonza, qui les a réceptionnés vendredi auprès du fournisseur. Il promet d'entamer dès ce lundi l'octroi de ces bulletins de niveau maternel, élémentaire, de cycle terminal, de l'éducation de base et secondaire pour leur acheminement dans un premier temps aux provinces éducationnelles de Congo central 1, 2 et 3 et de la ville de Kinshasa. Pour en savoir plus, suivez les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
L'inspecteur général à l'éducation assure qu'à partir de ce lundi, toutes les écoles seront desservies en bulletin cartonné. Il invite les chefs d'établissement à collaborer étroitement avec les enseignants titulaires des classes afin que d'ici la fin de la semaine prochaine, tous les élèves de la capitale soient en possession de leur bulletin. Hubert Kimboza.
Nous allons demander aux chefs d'établissement avec des titulaires des classes à travailler. De sorte que la fin déjà de la semaine prochaine, tous les enfants qui habitent la ville-province de Kinshasa soient en possession de leur bulletin.
Après les écoles de Kinshasa, l'inspecteur général prévoit la distribution aux écoles du Congo central en raison de leur proximité.
Nous sommes en train de voir comment les bulletins peuvent déjà être acheminés aux chefs-lieux des provinces éducationnelles. Inkissi, nous voyons Banzangungu, nous voyons aussi la ville de Matadi. Et je profite de l'occasion pour aussi vous annoncer que les écoles hors frontières de Cabinda et de Luanda seront servies.
De son côté, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale insiste sur l'importance d'un traitement équitable pour tous les enfants suivant les programmes scolaires congolais, quel que soit leur lieu de résidence.
Autre actualité, c'est parti avec la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi après 5 ans de léthargie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a officiellement lancé cette activité vendredi 5 septembre lors d'une cérémonie à la gare centrale de Kinshasa. Par la même occasion, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a déclaré que cette reprise, qui sera effective dès cette semaine, a été rendue possible grâce à des fonds de la redevance logistique terrestre instaurée par le gouvernement central. Il a ajouté que cela permettra à l'ONATRA d'évacuer une grande partie de 4 millions de tonnes de marchandises par an que reçoit le port de Matadi. Jude Mister Bilanda pour d'autres précisions.
Interrompu depuis février 2020, les trafics ferroviaires des passagers et des fret entre Kinshasa et Matadi reprend après acquisition par l'ONATRA des nouveaux équipements. Selon les vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies de communication, d'autres équipements sont attendus dans les prochains mois. Jean-Pierre Bemba Gombo.
Les 7 voitures voyageurs, dont 4 automotrices de modèle Kia 183, 2 intermédiaires de modèle Kia 182 et une unité VIP de modèle Kiro 182. Toutes climatisées et confortables, que nous recevons ce jour, constituent les prémices d'une longue série d'acquisitions à venir grâce notamment à la RLT. Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves ainsi que 40 wagons porte-conteneurs supplémentaires.
L'objectif final est de faire rayonner l'économie de la RDC à grande échelle et faciliter les échanges intérieurs et extérieurs grâce à un transport ferroviaire sûr et performant.
Et puis, vous le savez, obtenir un passeport est devenu un véritable parcours de combattant en République démocratique du Congo. Pour preuve, des milliers de Congolais, dont de nombreux étudiants, voient leur projet de vie gelé à cause de la lenteur administrative. Dans ce premier numéro de cette série de reportages que vous propose Radio Okapi, notre reporter est allé à la rencontre de ceux qui attendent depuis des mois ce précieux sésame. Michel Kifindangoy.
L'attente est longue et l'espoir s'amenuise devant le ministère des Affaires étrangères. Pour des dizaines de familles de Congolais, le passeport est un sésame qui se fait rare. Pour des étudiants comme Jean-Pierre, c'est même un cauchemar.
J'ai payé mon passeport il y a plus de 6 mois passés. Je devais partir pour mes études à l'étranger. Ma bourse, mon inscription, tout est en jeu. On me dit que c'est un problème d'impression. Je trouve que c'est inadmissible.
La frustration est palpable. Il y a quelques jours, une cinquantaine de personnes ont manifesté lassées de cette situation. Derrière ce retard se cache un problème majeur, la transition entre l'ancien et le nouveau producteur de passeport.
J'avais besoin du passeport de mon fils pour l'amener se faire soigner en Europe. Je dis annuler le voyage. C'est la santé de mon enfant qui est en jeu. C'est vraiment une grande déception.
Ces témoignages ne sont que la partie visible du problème beaucoup plus profond. Dans notre prochain reportage, nous vous révélerons pourquoi plus de 120 000 passeports sont bloqués dans une base de données, rendant leur situation encore plus complexe.
Actualité internationale.
Deux Américains d'origine camerounaise, dirigeants du mouvement séparatiste qui secoue les deux régions anglophones du Cameroun depuis 2016, ont été arrêtés aux États-Unis et inculpés pour enlèvement et attaque à la bombe. Ils ont été arrêtés ce matin dans le Minnesota, a annoncé un communiqué du ministère américain de la Justice.
L'invité.
Dans une analyse intitulée « Les examens d'État, la paix et l'hypocrisie des décideurs », Bukasa Kabwe, directeur de recherche au Bureau d'études pour la paix et l'environnement, a réagi à la publication des résultats des examens de l'examen d'État pour les provinces du Nord et du Sud Kivu, actuellement occupées par l'AFC M23. Dans son analyse, il exhorte le gouvernement central et l'AFC M23 à prioriser les besoins de la population pour établir la paix dans l'est de la RDC. Selon lui, leur collaboration pour l'organisation de ces examens devrait servir de modèle pour répondre aux besoins le plus crucial des habitants, la paix. Notre invité Bukasa Kabwe s'entretient ici avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Bukasa Kabwe, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Dans votre article, vous parlez de l'organisation de l'examen d'État et surtout la publication des résultats comme un élément important dans les contextes actuels. Comment expliquez-vous cela?
Le fait que les examens d'État se soit organisé dans les espaces occupés aujourd'hui, cela est pour moi un élément révélateur, car il met en lumière une capacité de collaboration entre deux parties, pourtant en conflit armé aujourd'hui. Nul ne l'ignore. AFC M23, en tant que mouvement politico-militaire, est en guerre avec notre gouvernement. Si ces deux parties ont pu, malgré les lignes de front et les divergences, ils ont pu à cœur donné pour garantir la tenue et la proclamation des examens d'État. Je vois dans cette dynamique la démonstration que la coopération est possible lorsque la volonté politique s'exprime. Et donc, la question qui reste ouverte est donc celle de savoir pourquoi ne pas élargir cette logique de coopération à la recherche de la paix de manière globale.
Dans l'article, vous parlez d'hypocrisie des décideurs. Est-ce une accusation ou une analyse?
L'hypocrisie dont je parle ici rentre dans la dynamique de l'analyse. J'emploie ce terme pour souligner une contradiction qui est très apparente. D'un côté, on affirme que la paix est difficile à atteindre à cause de la complexité du conflit. Ensuite, on nous dit que la paix est difficile à atteindre aujourd'hui à cause des enjeux régionaux. Et enfin, on nous affirme que la paix est difficile à atteindre à cause aussi des enjeux internationaux. Oui, c'est bien beau de nous étendre ce tableau sombre qui nous laisse croire qu'il est difficile aujourd'hui d'apporter la paix. Mais de l'autre, lorsqu'il s'agit d'un objectif commun, comme l'éducation, on trouve rapidement un terrain d'entente. Cette coopération a permis aux élèves de participer de manière correcte du début à la fin, jusqu'à l'obtention des résultats. Pour moi, en tant que conflictologue, mais je dis, cette capacité à coopérer montre que le blocage n'est pas seulement structurel. Je voudrais insister là-dessus. Le blocage n'est pas que structurel, mais il faut le percevoir aussi dans la dynamique de la volonté et de la priorisation. Les deux parties, ici je parle de Kinshasa et AFC M23, quelle est leur priorité? Est-ce que leur priorité, ce sont leurs intérêts personnels ou leur priorité, c'est le peuple congolais qui a besoin de la paix et qui a besoin de vivre dans un environnement où il n'y a pas de troubles?
Monsieur Bukasakabwe, certains estiment que comparer l'organisation d'un examen d'État à un processus de paix est simpliste, car les enjeux sont d'une toute autre ampleur. Que leur répondez-vous?
Ils ont peut-être raison. C'est vrai que les enjeux ne sont pas les mêmes et ils ne sont pas de même nature. Mais ma comparaison n'est pas vide de sens. Cette comparaison relève de la méthodologie pour arriver à la paix. Dans le cas, il s'agit de surmonter des obstacles, de communiquer et de coordonner malgré les divergences, n'est-ce pas? Cela veut dire que les gouvernements de Kinshasa et de l'autre côté, l'AFC M23, les deux parties devront engager la même énergie, c'est-à-dire celle de surmonter les obstacles qui les opposent pour trouver la paix. Ensuite, essayer de communiquer pour de vrai en vue de contribuer à la paix et coordonner toutes les actions ensemble pour arriver au résultat dont on a besoin, la paix. Pour moi, la paix demande beaucoup plus que l'organisation d'un examen. Je suis d'accord, mais l'exemple prouve que quand une volonté politique claire existe, même en contexte des conflits, la coopération est possible.
Monsieur Bukasakabwe, je rappelle que vous êtes penseur panafricaniste et écrivain. Merci.
Merci infiniment.
Voilà, fin de ce journal. Au nom de Jean Gandou, Jude Mister Bilandé et Dieudonné Nyangassa, je vous dis merci de l'avoir suivi.